Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier, sur Alliance Plus, fréquence 103.1 à Nîmes et qu'on peut également écouter sur Internet, en direct ou sur les podcasts en allant sur le site radiofmplus.org. Je reçois aujourd'hui Jam Sacré, poète. Bonjour Jam.
Bonjour.
Jam Sacré passe son enfance dans la ferme de ses parents en Vendée. Il est d'abord instituteur, puis instituteur itinérant agricole. Il part en 1965 vivre aux États-Unis, où il poursuit des études de lettres. Il y enseigne à l'université de Smith College, dans le Massachusetts. Il fait également de nombreux séjours en France et ailleurs, en Europe et aussi en Tunisie, au Maroc. En 2001, il rentre en France et réside depuis à Montpellier. Donc Jam, vous écrivez et publiez principalement de la poésie, et ceci depuis 1965.
Oui, en effet, 1965, c'est la date de parution de ma première plaquette. Mais j'écrivais des poèmes, en fait, depuis l'âge de 12-13 ans. Depuis cette première plaquette, 65, il y a beaucoup de livres qui sont accumulés. Il y a une cinquantaine, soixantaine de livres, plus beaucoup de livres d'artistes avec différents plasticiens.
Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un recueil qui est publié chez Poésie Gallimard, « Figures qui bougent un peu » et autres poèmes, donc qui rassemblent plusieurs plaquettes de poésie. Votre écriture est ancrée dans la ruralité, l'enfance dans le monde paysan et la nature. Mais lorsque vous dépeignez ce monde paysan, vous dites que c'est aussi une façon de vous adresser au monde paysan contenu en chacun de vos lecteurs. Comment ce monde paysan a-t-il marqué de son empreinte votre écriture, Jam?
Eh bien, étant donné que j'ai vécu mon enfance et mon adolescence dans une petite ferme vendéenne, forcément, mon vocabulaire, mon premier vocabulaire vient de là. Et aussi, au-delà de la langue, je parlais un peu le patois poitevin et bien sûr aussi le français. Mais au-delà de ces enseignements de langue, de ces influences de différentes langues, il y a eu également l'influence d'un lieu de vivre où justement le métier et la vie se mélangent complètement. Il n'y a pas d'horaire de travail et ensuite des temps de loisirs. Tout cela est tout vécu ensemble et ça a certainement une grosse importance sur ma formation.
Alors la langue de l'écrit s'impose à vous tel un matériau à façonner, triturer de façon à faire émerger de nouvelles formes. Vos poèmes se présentent tels une recherche autour de l'écriture. Vous dites « Je mélange l'insignifiance avec les mots, j'aime que cela fasse un poème ».
Oui, il y a une façon de vous répondre, ce serait peut-être de lire une première séquence de ce livre.
Oui.
Voilà, je vais lire la figure 3 qui est écrite autour de souvenirs de mon père. Dans les yeux de mon père, soudain l'absence, un pays sans arbres, pas de pays, le regard comme de la transparence et de la folie, nulle part et c'est comme tellement proche. La porte d'une grange vide bat, le reste oublié d'une récolte est là. Il y a un mélange de bleu presque fleuri et de temps gris dehors. Je sais pas où dehors et quel intérieur mal clos. Ce qui bouge presque pas dans son œil vide, un peu d'herbe, sur des talus tellement loin, parcourt à pied la guerre. Qu'est-ce que j'en peux savoir, tout ça fuit mémoire et visage défait mal pris dans la présence. La dérision, la tendresse, on sait pas, le bleu continue. Il est debout sans que je sache trop où, dans le hangar. Par exemple, c'est un long jour de pluie, ça sent. Le bois, les bitons d'huile remués, ses bottes. Sa barbe mouillée, maintenant il brosse un peu. La terre qu'a mis le sac, retroussé en coin capuchon. Sur son béret, le ramener sur les yeux, silence. Longtemps la pluie, pas grand-chose à dire, continuer, pour que ça fasse un bloc tout d'une page, à cause de mon désir de rester plus longtemps. avec des mots familiers, les outils qui traînent, la marotte. Au fond du hangar, des planches debout, les couleurs grises. Un parapluie défait, est-ce que c'est vraiment mon père? Cet homme silencieux dont je parle pourtant, ses grimaces, le fil de fer, les choses dans ses mains. J'arriverai mal à remplir ma page, sauf à force de répéter toujours l'espèce d'inquiétude un peu fausse, la même autrefois dont le travail jamais fini, semblait-il. De quoi est-ce qu'on a peur vraiment d'arriver où? Ou bien c'est-il d'y être toujours là-bas, et n'y a plus rien, ni les orties, ni mon père? Seulement les mots d'aujourd'hui, quel rapport? Avec les courroies, les harnais inutiles. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant le mélange du mot cœur avec le mot silence? Je commence à comprendre l'insignifiance au loin, dans ce hangar ouvert à la pluie froide, l'absence avec ses grimaces, la saleté familière, dans le vide et la tendresse, c'est pareil, qui fait le regard de mon père au loin. C'est pareil quand il est là, ça continue dans mon poème. On peut relire encore, ça veut vraiment rien dire.
Jardin d'Isis, avec Jam Sacré, poète. Pour vous, Jam, l'espace du poème est un lieu de réflexion, mais surtout musique. Vous aimez entraîner le lecteur dans cette musique du poème. Et je vais vous lire figure 19. Lenteur d'une musique, j'en peux pas dire grand-chose, puisque tous les mots pour ça, je les connais pas tellement bien. Seulement comme des choses sonores, je les remplis. De souvenirs mal précis, j'imagine. Et si peut avoir avec la musique, alors qu'est-ce que c'est la musique? Quand elle se trouve être l'endroit où patauge quand même avec plaisir, ou quelque peu dans l'ennui, mon ignorance, je me demande... Si c'est pareil, avec un poème, sans doute, à vrai dire, parce que ce que j'aime dans un poème, ça finit toujours par être comme des restes. Après qu'on a expliqué des thèmes et des figures et fabriqué des constructions logiques, tout ça qui fait plaisir, quand même, on a l'impression d'y voir clair. Mais c'est quand même fatigant, toujours un peu décevant, trop simple ou trop pédant, alors on retourne patauger dans le poème une espèce de lecture un peu vite, on saute une page, on n'a pas le temps ni l'envie d'aller jusqu'au bout. Pourtant, ça fait qu'on est content. En même temps, c'est inquiétant.
Oui, voilà. Bien, la musique, effectivement, c'est un peu différent. C'est un peu difficile de la comparer pourtant avec le poème, avec ce qu'on appelle la musique d'un poème, parce que si on prend par exemple l'exemple du rythme en musique, le rythme est nettement indiqué par la partition, tandis que dans l'écriture, le rythme est une chose très difficile à expliciter. Il y a bien la fin des vers ou certaines césures, comme dans l'alexandrin ou dans les décasyllabes avec la césure 6-4 ou 4-6, mais le rythme reste en poésie une affaire très, très difficilement déchiffrable que chaque lecteur doit inventer à son tour. Pour mieux dire le rapport de l'écriture avec la musique, je vais vous lire cet autre petit poème concernant ce problème. C'est tiré de Une petite fille silencieuse. Poème, te voilà, si peu de mots, des phrases comme une musique plutôt que du sens, une musique, mais pas vraiment que des mots. On saurait mal en mesurer les rythmes, et soudain des façons, poème que tu as, de les précipiter, distraits ou qui pensent à cet en quoi. Peu de bruit nous reste dans l'oreille et tu ne proposes aucune mélodie qu'on pourrait connaître par cœur.
Par rapport à l'écriture, vous dites, James, de votre patois poitevin, l'entendre courir dans votre langage. Le laissez-vous libre d'intrusion dans votre écriture ?
Oui, alors le patois, c'est une autre musique par rapport au français appris à l'école. C'est difficile de vraiment le laisser complètement courir en liberté dans mes poèmes, parce que ça serait me condamner à ne pas être entendu par d'éventuels lecteurs. Donc j'utilise le patois pas vraiment en y pensant de façon précise, mais simplement quand il me vient au bout des doigts. Ou alors quand il présente des mots qui n'ont pas d'équivalent en français, comme par exemple le mot « dorne », hein, une dorne, c'est quand on relève son tablier pour une femme, pour par exemple en rapporter des légumes du jardin. Voilà un mot qui n'existe pas en français, qui est un mot manquant, comme dit un dictionnaire récent. Ou encore par exemple le mot « se caniger », qui veut dire « se blottir pour avoir chaud et être bien dans des couvertures » ou en d'autres choses. Voilà, mon patois est quand même une réserve de richesse possible, oui, oui. Pour écrire aussi
très
en français.
Très imagé. Tout. Voilà. Donc, vous allez nous lire figure 38,
voilà,
autour de l'écriture.
Oui, alors la figure 38, voilà. Si je revenais maintenant à une écriture plus grammaticalement correcte, comme on dit, peut-être que sentirais mieux après la traversée des maladroits accidents dans les poèmes qui précèdent, que le langage en beau français c'est plein de trous qu'on cache dessous, d'hésitations lentes pétries dans la mièvrerie et souvent la bêtise un peu grandiloquente, j'en veux pour preuve, les premiers états exposés de quelques pages de Saint-Jean-Perse au musée Jacques-Marandré. J'aime bien quand ça peut résister ces maladresses pour paraître dans la surface arrangée du poème, ça fait comme des intonations et des mots grossiers de mon père dans la conversation familiale tous les jours, ou comme dans le sourire d'une petite fille, soudain ses fesses retroussées, comme on pourrait dire presque tout et n'importe quoi, mis ensemble justement, et pas cette espèce de langage choisi que ça va sans risque avec des façons de gros fermiers ou de professeurs, le phrasé sûr, comme des commerçants bien installés, je m'en vais retourner au mélange de la grammaire qu'on a déjà un coup dans l'aile, avec mon ignorance, attelé à mon savoir et mon goût de conduire des phrases à travers n'importe quoi.
J'aime sacré, j'ai lu de vous poète dubitatif. De fait, vous nous incitez à entrer dans votre atelier. En quelque sorte, vous nous invitez à participer à ce questionnement. On écoute le dialogue que vous entretenez avec vous-même et les questions que vous posez. Vous évoquez fréquemment cette insignifiance qui se transpose partout. Insignifiance de l'éternité. J'ai lu Figures qui bougent un peu. Ce recueil est édité aux éditions Gallimard en décembre 2015. Figures qui bougent un peu dans un paysage immobile, la vie provoque un frémissement. Est-ce ainsi qu'il faut comprendre ces figures qui bougent un peu ?
Oui, alors pour ce qui est de l'atelier, effectivement, en tous les cas pour moi, il m'est difficile d'écrire un poème sans penser à ce que je suis en train de faire en écrivant un poème. Comment est-ce que les mots vont joindre ce que je regarde, ce à quoi je pense d'une part. J'aime beaucoup écrire sur le motif, par exemple. Et d'autre part, le lecteur, hein, qui va peut-être comprendre tout à fait autre chose que ce que je dis avec ces mots. Parce que, par exemple, si je dis le mot arbre et que moi je pense, mettons, à un érable en Nouvelle-Angleterre où j'ai longtemps vécu, peut-être que mon lecteur, s'il est par exemple marocain du Sud, va voir dans le mot arbre un arganier, hein, et ce sera donc toute une autre série d'images qui lui viendra en tête. Vous voyez donc, on ne peut pas écrire deux mots sans tout d'un coup se demander ce qu'on est en train de faire et ce qui en résulte. Pour ce qui est de figures qui bougent un peu, ben ça rejoint ce que je viens de dire, parce qu'effectivement, déjà, les mots qui sont à la fois des figures de rhétorique, des figures grammaticales ou des figures de sens, ne sont jamais définitivement établis, hein, puisque chacun les interprète comme il veut. Et d'autre part aussi, quand on écrit sur le motif et qu'on a devant soi un paysage ou un visage ou autre chose, ces figures du réel sont des éléments qui sont toujours en train de vous surprendre alors que vous croyez les connaître et sont donc aussi des choses qui n'en finissent pas de bouger et de se transformer.
Donc nous allons lire la figure 26. Reprendre après quelque temps l'ensemble de ces figures. Elles bougent somme toute très peu, sinon pas du tout. Groupe d'une dizaine ou plus de lignes longues d'écriture qui font un pavé d'encre un peu carré dans la page, un espace où je suis bien presque, sauf qu'à la fin revient la lassitude et le savoir désorienté. C'est dans l'instant de la boucle ainsi finale, une reprise le plus souvent des mots lancés d'abord, que ça bouge peut-être un peu, ça permet, si même c'est dans l'illusoire émiettement du même, je sais pas quoi en fait la poésie, c'est rien, ça continue. Si je parle maintenant de quelques herbes grandes, je les connais dans une campagne au loin, ça va faire un effet de vécu dans la couchée de ces lignes écrites, graminées, dactyles, siliceux, dans le bord des chemins. D'autres, je m'en souviens, cette touffe par exemple de brise, les vaches la laissent trembler dans un coin rêche du pré, ça fait plutôt comme un effet de temps, mal vécu maintenant. Le plaisir d'énumérer les plantes connues, je les retrouve mal. Est-ce que pourtant je l'entends pas dans les mots, les herbes mêlées, tout ça, comme évident, comme du foin coupé de la veille. Ça devient, je le vois bien, lassant maintenant de continuer l'écriture de ces poèmes, toujours presque les mêmes, sauf des variations. À la fin, elles se rejoignent, je trouve, trop dans un même sens, pas bien dit, mais qu'on éprouve, qui est en somme la répétition de ces formes figurantes, une façon particulière d'aller à la ligne et de battre un rythme, avec ce que, par exemple, contient le mot « cœur », quand il se trouve pris dans « comme » un dessin grammatical et des allusions à des choses qu'on pourrait peut-être dire autrement, mais ça n'est pas du tout sûr, au plus, ce serait une autre variation, la même insistance, du presque même poème, pour rien, faut-il pas continuer ? Donc, je ressens dans votre poème l'insignifiance de l'existence mêlée à cependant un mouvement imperceptible. Est-ce qu'on peut y voir l'expression d'une philosophie, Jacques Sacré ?
Bon, une philosophie, le poète ne se prend pas pour un philosophe, vraiment. Hein, et surtout qu'en plus, à mon sens, le poème ne cherche pas à expliquer quelque chose, ni à communiquer un message ou une connaissance précise quelconque. J'aime bien comparer le poème à un geste d'écriture, parce que dans le mot « geste », il y a justement ce qui dépasse les mots, hein, ce qui les aide. Et pourtant, on ne sait pas trop comment ça les aide, parce que dans un geste, il y a toujours quelque chose qui reste indécidable, qu'on n'est pas sûr de comprendre, voilà, hein, qui est rempli d'affectivité ou de gesticulation, peut-être justement insignifiante, puisque nous avons beaucoup parlé de ce mot. Voilà, hein, donc non, il n'y a pas vraiment de philosophie, il y a simplement des gestes de mots pour vivre.
Donc j'aime vous parler des multitudes, sourires de la pierre, des cœurs, des gens qu'on a aimés, et aussi de la mort comme une bête familière. Et je vais lire figure 29. Le vert très foncé, les arbres dans le concret du temps, avec la lumière, le plan comme très propre des prés. D'un côté, il y a la rivière, un mouvement de peupliers. En retrait, le silence, mon père, quelque part, son activité. Compliqué, minuscule, piqué de fer, tas d'épines qui bougent. Dans l'ampleur, en même temps, l'intimité de ce paysage au loin. La solitude comme un visage, pas de sourire, geste concret, le temps s'en va. Dans ce verre que j'ai rempli de travail, lentement répété, espèce de fatigue agricole, pour en somme quoi? Le souvenir que je construis mal, outil, geste. Repris, ce qui reste surtout, c'est les moments de quelques visages, soudain vus dans le bleu grand, les arbres verts qui remuent, la couleur d'une joue tellement, presque rien, comme qu'est-ce que ça veut dire un sourire dans le temps disparu?
Oui, la mort comme un sourire, peut-être pas quand même tout à fait. La mort est quand même plutôt comme une énigme et un silence. Et je pense que c'est ce que veut dire le dernier vers. Qu'est-ce que ça veut dire dans le temps, hein, comme un sourire disparu. Voilà. Mais la mort, effectivement, comme une bête familière. Une bête familière qui reste toujours quand même mystérieuse, puisque la mort nous accompagne à chaque instant dans notre vie, puisque les cellules n'en finissent pas de mourir les unes après les autres. Et elle est donc à la fois familière et très énigmatique.
J'aime vous opérer souvent à un croisement entre les lieux et les souvenirs. On retrouve cette grange de votre mémoire, par exemple, transposée dans un paysage d'Amérique du Nord. De même pour certaines églises d'un quartier de Paris. Peut-on dire donc que la mémoire crée le lien?
Oui, alors, je ne sais pas si c'est un effet de la mémoire, mais probablement quand même beaucoup. Mais c'est aussi un effet d'une certaine disposition d'esprit ou de l'affectivité, je suppose. C'est l'étonnement devant l'emmêlement de la familiarité et de l'étrangeté, je crois. C'est-à-dire que chaque fois que je suis dans un pays dit étranger, je finis tout de suite très rapidement par y découvrir des choses qui m'étaient familières dans mon propre pays. Et d'autres choses qui me renvoient à mon propre pays et qui me le rendent quelquefois étrange. Hein, vous voyez, donc je pense que c'est surtout cette attitude que j'ai, hein, de voir un peu partout les mêmes choses à la fois se répéter et à chaque fois être différente de ce que j'avais cru tout d'abord. Voilà. Et je terminerai avec la fin d'une dernière figure, la figure 41, hein, justement qui transporte un peu ma Vendée natale dans la Nouvelle-Angleterre américaine. C'est pour des raisons de composition de cet ensemble de poèmes que je reviens maintenant à l'évocation de ce coin d'Amérique au cœur de la Nouvelle-Angleterre. qui en est justement assez l'origine. Pour des raisons obscures, pour sans doute seulement refaire à nouveau un détour par des thèmes différents, la tentative de parler au rat d'autre chose qu'on a aimé, et pour renouveler peut-être le vocabulaire, les érables et canneberges, que leur rouge s'appête quand on les fait cuire, ça fera un goût très acide avec la dinde, les pacanes pour une tarte. Dans la chambre, il y a un grand quilt avec un motif appliqué de fleurs en tissu ancien. On trouve au bord des gros ruisseaux de toute cette région des moulins et des usines désaffectées. Dans le milieu des bois, quelquefois un espace qui a été planté de pommiers dans les premiers jours de froid, les jolies notes sont un mot familier qui fait que les derniers fruits ratatinés et les herbes cassées sont comme le dessin d'un cœur et de jambes remuées qu'on a mal mesurées, qu'on peut quand même s'en souvenir dans le confort ordinaire d'une maison américaine en hiver.
Donc nous étions dans cette émission Jardin d'Isis avec le poète Jam Sacré. Où peut-on se procurer votre recueil, Jam?
Écoutez, pour les gens de Montpellier, on peut les trouver, enfin on en trouve certains dans les librairies montpelliéraines, chez Soramp ou au Grain des Mots. Et je signale également qu'on peut aller en lire pas mal à la bibliothèque de la Maison de la Poésie Jean Joubert, aussi à Montpellier. Voilà, merci beaucoup.